Imaginons une scène historique, vraiment macabre, mais super révélatrice. Un homme se tient devant un tribunal, il y a des soldats, des instruments de torture partout.
Le genre de situation où on n'a vraiment pas envie d'être, quoi.
Ah ça, carrément pas. Et là, on lui offre un choix qui a l'air d'une simplicité enfantine. On lui dit « mange ce simple morceau de viande de porc et tu repars libre » ou alors « tu refuses et tu subis une mort complètement effroyable ».
Et le lecteur moderne, en lisant ça, il a presque envie de crier au texte. Genre « mais mange ce morceau de viande, rentre chez toi, c'est absurde !»
Exactement. Sauf que l'homme refuse catégoriquement. Il choisit la torture. Et c'est pas par simple entêtement diététique, tu vois.
Non, c'est parce que céder, ça détruirait instantanément la seule et unique monnaie qui avait une véritable valeur dans le monde méditerranéen du 1er siècle.
Et cette monnaie, on va en parler aujourd'hui, c'est l'honneur. C'est vraiment l'axe central autour duquel tournait l'existence entière des populations antiques.
Sans cet honneur, la vie physique perdait littéralement son sens.
C'est fou de se dire ça aujourd'hui, mais ouais, c'est le cœur de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On se base sur les recherches et une conférence vraiment fascinante du docteur David de Silva.
Ouais, son travail décortique le contexte culturel de l'Antiquité en se concentrant sur cette dynamique qui est presque extraterrestre pour nous, de l'honneur et de la honte.
Ok, décortiquons tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que plonger dans ces sources, c'est réaliser qu'aborder des textes anciens, comme le Nouveau Testament par exemple, en présumant que leurs auteurs fonctionnaient avec notre logiciel mental du 21e siècle...
C'est vraiment l'assurance de tout comprendre de travers. C'est un anachronisme psychologique total.
C'est ça. On plaque nos idées sur leur réalité.
Complètement. Pour saisir la mécanique de l'honneur, il faut d'abord effacer notre propre disque dur culturel, en fait. Notre société occidentale contemporaine, elle repose sur des piliers très spécifiques, genre les droits individuels, inaliénables, un système légal abstrait, et surtout, les transactions commerciales.
Ouais, l'argent, quoi.
Voilà. Quand on veut obtenir quelque chose, un bien ou un service, l'échange est monétaire et immédiat. On paye, on obtient le truc et la relation s'arrête là.
Je te donne 10 euros, tu me donnes un café, au revoir.
C'est exactement ça. Mais au 1er siècle, cette logique n'existait pas du tout. L'accès aux biens, à la sécurité, à la justice ou même aux opportunités économiques, c'était presque intégralement relationnel.
D'accord, donc ce qui veut dire que la survie d'un individu ne dépendait pas du tout de son compte en banque ou d'une constitution écrite.
Non, ça dépendait de son réseau.
Et ce réseau, j'imagine qu'il commençait par la famille, non?
Ouais, mais enfin... Pas notre version moderne de la famille qui est souvent éclatée géographiquement avec les enfants à l'autre bout du pays.
Ah non, la notion même de famille était radicalement différente. C'était pas la famille nucléaire occidentale avec papa-maman et les deux enfants.
Ouais, c'était plus large.
C'était une structure étendue, patriarchale, profondément intégrée, qui fonctionnait vraiment comme une unité de production, de sécurité et d'identité. Un individu n'avait pour ainsi dire aucune identité sociale en dehors de son appartenance à ce groupe.
Et j'ai vu dans les notes que cette différence de paradigme, ça s'étendait à tout, même au concept de pureté et de pollution. Ah oui, c'est un super exemple, ça.
Aujourd'hui, si on dit pollution, on pense tout de suite aux émissions de carbone. Et la propreté, ça fait penser aux normes d'hygiène, aux microbes.
Au gel hydroalcoolique, ouais.
C'est ça. Mais dans le bassin méditerranéen antique, la pureté, c'était une catégorie rituelle et spatiale. Ça définissait de manière très rigide qui avait le droit d'accéder à la présence divine dans les espaces sacrés et qui en était exclu. C'était pas une question de se laver les mains avant de passer à table.
Et il y a un autre exemple précis dans les recherches du docteur de Silva qui illustre parfaitement ce gouffre culturel. C'est la façon dont on comprend le concept de grâce ou de don gratuit.
Ah, ça c'est mon exemple préféré.
Vas-y, je te laisse l'expliquer.
Si on dit à quelqu'un aujourd'hui « tiens, c'est un don gratuit », la traduction immédiate dans son cerveau c'est « super, zéro obligation. C'est comme le petit échantillon de fromage gratuit au supermarché.
Ouais, le truc sur un cure-dent, là.
Exactement. Le client le prend, le mange, et il sort du magasin sans avoir à signer un contrat d'exclusivité avec le fromager, tu vois.
Et c'est précisément là que le lecteur moderne trébuche sur les textes antiques. L'apôtre Paul, par exemple, il discute de ce concept dans le 11e chapitre de son épître aux Romains. Il définit le don de Dieu comme n'étant pas basé sur des œuvres préalables.
Donc, un vrai don gratuit.
Le donneur agit librement, sans y être forcé. Sauf que, et c'est là que ça change tout, la réception de ce don crée automatiquement, dans la mentalité de l'époque, une obligation de loyauté et de gratitude absolue. Le don n'était pas une transaction fermée, c'était l'ouverture d'une relation de patronage.
C'est fascinant. C'est comme si on confondait ce fameux échantillon de fromage avec le fait que quelqu'un plonge dans un fleuve glacé pour nous sauver la vie.
C'est une excellente analogie.
Bah dans le deuxième cas, on dit pas juste « et merci pour le sauvetage gratuit avant de tourner les talons et de rentrer chez soi ». On contracte une dette morale éternelle envers cette personne.
Et on voit bien que notre esprit moderne rejette violemment cette idée d'obligation infinie. On déteste l'idée d'être en dette.
Ah oui, l'indépendance avant tout aujourd'hui.
Mais pour un habitant du 1er siècle, accepter un bienfait sans rendre publiquement l'honneur et la loyauté au bienfaiteur, c'était pire qu'un crime. C'était la marque d'un monstre asocial.
Ce rejet viscéral qu'on ressent, nous, face à cette asymétrie relationnelle, c'est vraiment le meilleur indicateur de la distance qui nous sépare de ce monde. Une fois qu'on réalise que les droits individuels et l'argent ne régissaient pas tout, on est bien obligé de se demander quel était le moteur des décisions humaines.
Et c'est là qu'intervient l'honneur. Le philosophe stoïcien Sénèque, tu sais, celui qui fut le tuteur et le conseiller de l'empereur Néron, il a rédigé un traité intitulé « Des bienfaits ». Et il y pose un principe fondamental de son époque, à savoir que la valeur primordiale pour orienter une action, c'est l'honneur. Si une chose est reconnue comme honorable par la communauté, elle doit être poursuivie. Point barre.
Attends, je dois faire une petite pause ici pour remettre ça en question. J'ai lu que les manuels de rhétorique de l'époque, comme ceux d'Aristote ou la Rhetorica ad Herennium, ils affirment que si un politicien ou un général doit convaincre une foule de choisir entre la sécurité, donc la survie pure et simple, et l'honneur, eh ben, l'argument de l'honneur doit toujours l'emporter.
Toujours, oui.
Mais c'est ça qui m'échappe. D'un point de vue évolutif, l'instinct de survie, c'est censé être notre programmation la plus basique, non ? Comment une société pouvait-elle fonctionner si ses membres privilégiaient le prestige social plutôt que le simple fait de rester en vie ?
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut repenser ce que signifiait rester en vie à l'époque. Dans une société collectiviste, la survie physique d'un individu qui serait déconnecté de son groupe, elle était presque impossible.
Il ne survivrait pas seul dans la nature, quoi.
Exactement. La mort sociale, c'est-à-dire la perte totale de l'honneur et le bannissement de la protection du réseau, ça précédait et ça garantissait souvent la mort physique. Donc choisir l'honneur, c'était en réalité choisir la survie du groupe et de sa propre lignée, même si l'individu devait y laisser la vie.
D'accord, je comprends mieux. L'honneur était donc littéralement un mécanisme de survie collective, une monnaie bien plus vitale que l'or. Mais comment on l'accumulait concrètement ?
Les sources parlent d'un honneur attribué et d'un honneur acquis. C'est bien ça ?
C'est ça. L'honneur attribué, c'est celui dont on hérite à la naissance. La réputation de la famille, l'appartenance ethnique, le statut social des parents. On n'a rien fait pour l'obtenir, il est juste là.
Le point de départ, en gros. Voilà. L'honneur acquis, en revanche, c'est le résultat d'actions spécifiques, d'actes de vertu, de courage militaire ou de bienfaisance. Mais la clé, c'est que cet honneur n'avait de réalité que s'il était publiquement reconnu.
L'auto-estime dans son coin, ça n'existait pas.
L'auto-estime n'existait pas en tant que concept valorisé, non. Il fallait que la communauté valide ce statut, ce qui passait par des manifestations physiques très codifiées.
C'est pour ça que la place à table dans un banquier, c'était loin d'être un détail trivial. Être invité à s'asseoir à la main droite de l'hôte, j'imagine que c'était l'équivalent antique de recevoir une médaille d'honneur en direct à la télé.
C'est tout à fait ça. Et inversement, les châtiments prenaient la forme de dégradation publique. Tu penses au récit des évangiles décrivant le procès de Jésus, par exemple.
Ouais, où on lui gifle le visage, on lui crache dessus. C'était pas seulement de la torture physique, si je comprends bien la logique.
Loin de là, c'était vraiment l'inverse. Le crachat, la gifle sur la joue droite, le fait de couronner quelqu'un de ronce, ce sont des actes rituels de déconstruction de l'honneur. L'objectif, c'était de détruire le nom de l'individu, sa réputation, son identité sociale.
Ça donne une toute autre dimension à la prière du Notre Père quand ça commence par « que ton nom soit sanctifié ».
Exactement. C'est une requête profondément ancrée dans cette culture, demandant que l'honneur suprême de la divinité soit publiquement reconnu et respecté par tous.
C'est fou. Et il est crucial de préciser que ce jeu de l'honneur n'était pas du tout le même pour tout le monde. Les règles étaient strictement genrées. Les sources montrent que l'honneur masculin était par définition public et compétitif.
Les hommes devaient constamment défendre et accroître leur statut sur l'agora, dans les tribunaux, sur les champs de bataille.
Mais pour les femmes, la dynamique était inversée, non ?
Oui, la culture gréco-romaine et moyenne-orientale confinait vraiment l'honneur féminin à la sphère privée, ce qu'on appelle l'oïkos. L'honneur d'une femme résidait dans sa pudeur, sa chasteté et sa capacité à éviter le regard public masculin. C'était un honneur purement défensif pour protéger la lignée de la famille.
Ce qui rend les exceptions encore plus intéressantes, le docteur De Silva mentionne des figures comme Judith dans la littérature juive ancienne, qui est acclamée pour avoir sauvé son peuple en assassinant un général ennemi. C'est une action éminemment publique et violente.
Et c'est justement l'exception qui confirme la règle. Les auteurs antiques manquaient tellement de vocabulaire pour décrire une femme gagnant de l'honneur dans la sphère publique qu'ils décrivaient souvent son courage comme étant viril.
Ah ouais, ils n'avaient pas les mots, quoi.
Ils devaient utiliser les codes de l'honneur masculin pour rationaliser son héroïsme. Mais au bout du compte, homme ou femme, le mécanisme de base restait le même. Le regard de la communauté dictait la valeur de l'individu.
Si on y réfléchit bien, cette dépendance totale à l'opinion publique, c'est un outil de contrôle social absolument redoutable. C'est le ciment ultime pour garder une cité unie. Les sociétés antiques exploitaient ce besoin viscéral de ne pas être couvert de honte pour manipuler les masses.
Et les pousser à servir le bien commun. Cela soulève une question cruciale sur notre propre fonctionnement moderne. Aujourd'hui, l'individualisme et la poursuite de l'intérêt personnel, c'est souvent perçu comme rationnel, voire même célébré par notre système économique.
Le fameux self-made man.
Voilà. Mais au 1er siècle, une personne agissant uniquement pour son propre bénéfice, au détriment du groupe, elle était qualifiée de personne sans honte.
Et c'était grave de dire ça, non ?
C'était une insulte gravissime. Ça signifiait que l'individu était imperméable au jugement moral de la communauté et donc intrinsèquement dangereux.
C'est ce qui explique leur définition du courage militaire, du coup. Pour qu'une cité-État grecque survive, il fallait que ses citoyens soient prêts à se placer en première ligne et à prendre littéralement une lance dans la cuisse.
C'est très visuel, mais c'est ça.
Et pour s'en assurer, on inondait les soldats tombés au combat d'honneur posthume. Les discours funèbres publics grandioses, c'était pas de la thérapie pour consoler les familles endeuillées. C'était un conditionnement psychologique de masse.
Pour convaincre la prochaine génération que mourir pour la cité, c'était la seule voie vers la gloire éternelle. C'est ce même mécanisme d'ailleurs qui a poussé la rébellion juive de 66 après Jésus-Christ à affronter la machine de guerre romaine qui était pourtant invincible. L'honneur de la nation exigeait le sacrifice, peu importe les chances de victoire.
Et la générosité civique fonctionnait sur la même ingénierie sociale, non ? Les gouvernements locaux de l'Antiquité ne prélevaient pas d'impôts réguliers pour financer les bains publics ou les routes.
Ils n'en avaient pas besoin, car ils exploitaient la soif de prestige de l'élite.
J'adore ce point. Aujourd'hui, on paie des impôts et on croise les doigts pour que la municipalité répare les nids de poules dans la rue. Au 1er siècle, on utilisait la vanité pure et dure pour bâtir l'infrastructure.
Oui, les notes mentionnent un certain Éraste, un fonctionnaire de Corinthe. Il a payé de sa propre poche pour paver une immense place publique.
Pourquoi vider ses coffres personnels pour du ciment ? Bah parce qu'en échange, il a obtenu un poste civique majeur et a fait graver son nom en lettres gigantesques dans la pierre, aux yeux de tous. Son investissement financier a été immédiatement converti en capital d'honneur.
Un capital si durable que les archéologues lisent encore son nom aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est brillant. Ça, c'est du retour sur investissement.
C'est un écosystème très stable, tu vois. Enfin, tant que la société reste homogène. Mais que se passe-t-il lorsqu'un individu évolue dans une ville cosmopolite où plusieurs groupes se côtoient avec des définitions de l'honneur qui s'excluent mutuellement ?
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Prenons l'exemple des communautés juives vivant dans des métropoles grecques comme Alexandrie ou Césarée. C'est là que le manuel de survie sociale s'auto-détruit.
Totalement.
Parce que pour accumuler de l'honneur au sein de sa propre communauté, un juif pieux doit observer strictement la Torah. Il doit pratiquer la circoncision, respecter le repos absolu du sabbat, suivre les lois alimentaires interdisant de manger du porc et refuser toute participation au culte gréco-romain.
Le problème, c'est que ces exactes mêmes actions déclenchent une avalanche de honte et de mépris de la part de la majorité civique grecque qui les entoure. Et il faut bien comprendre pourquoi, en se plaçant du point de vue hellénistique.
Oui, mettons-nous à leur place.
Pour un grec, le refus de participer au rituel polythéiste, c'était pas une preuve de dévotion religieuse, c'était un athéisme perçu comme un danger pour la prospérité de la ville. Les dieux allaient se fâcher, quoi.
Et la circoncision ? Pour la culture grecque, qui vouait un culte à la perfection symétrique et intacte du corps humain, il suffit de regarder leur statut d'ailleurs, la circoncision n'était pas le symbole d'une alliance divine, c'était perçu comme une mutilation barbare.
Absolument. Quant au sabbat, l'idée même d'un jour entier de repos obligatoire, ça semblait aberrant dans une culture civique qui valorisait la contribution active. Les Grecs en déduisaient simplement que les Juifs étaient structurellement paresseux.
Et même le refus du porc créait une friction immense, non ?
Ah oui, pour le monde gréco-romain, le porc c'était une viande abondante, délicieuse, un véritable cadeau de la nature. Le rejeter ostensiblement, c'était perçu comme une bizarrerie arrogante, presque une insulte à l'ordre naturel.
J'imagine que la conséquence psychologique de ce décalage devait être dévastatrice. De nombreux membres des minorités religieuses, écrasés par ce mépris constant, devaient ressentir une tentation énorme de s'assimiler pour arrêter d'être traités en paria.
C'était un cauchemar psychologique. C'est l'équivalent de devoir jouer à deux sports complètement différents, sur le même terrain, en même temps. Les règles sont inversées et le public hurle des consignes contradictoires.
Si un joueur marque un point vital pour son équipe d'un côté, il commet une faute éliminatoire honteuse de l'autre. La charge cognitive pour survivre à cela sans perdre l'esprit devait être monstrueuse. Alors, comment ils ont résisté ?
C'est là que réside le génie littéraire et rhétorique des auteurs de ces minorités. Pour empêcher l'assimilation et le désespoir de leurs membres, ils ont entrepris de pirater le code source du système de l'honneur. Ils ont redéfini les règles du jeu de l'intérieur.
Un vrai hacking culturel, quoi.
Exactement. Prenons l'auteur juif Ben Sira, par exemple. Dans ses écrits, il s'attaque à la racine de l'honneur séculier, en affirmant que ni la richesse, ni la position sociale, ni la lignée prestigieuse ne sont source de véritable honneur. La seule chose qui octroie de la gloire à un être humain, affirme-t-il, c'est sa fidélité à la loi de Dieu.
Ils ont complètement changé la juridiction, en fait. Puisque l'honneur dépend du regard d'autrui, d'un tribunal de l'opinion, entre guillemets, ils ont simplement changé de juge.
C'est brillant, non ? Ben Sira écrit à ses lecteurs que les yeux de Dieu sont 10 000 fois plus brillants que le soleil et qu'ils scrutent les secrets les plus enfouis. Face à ce regard cosmique omniscient, l'opinion moqueuse d'un voisin grec à l'agora perd instantanément toute son importance. C'est la validation divine contre la validation mortelle.
Et pour renforcer cette armure psychologique, il fallait aussi activement dévaluer les critiques, j'ai l'impression. Dans des textes comme La Sagesse de Salomon, l'auteur ne se contente pas de défendre sa minorité, il passe à l'offensive. Les élites païennes y sont dépeintes comme des esprits vides, frappés d'aveuglement moral.
L'argumentation est cinglante. Pourquoi accorder la moindre valeur à l'opinion de gens qui sont intellectuellement assez déchus pour se prosterner devant des morceaux de bois ou de pierre taillés ?
C'est exactement la même logique que l'apôtre Paul déploie dans le premier chapitre de la lettre aux Romains. Il décrit les philosophes idolâtres comme étant devenus fous dans leur raisonnement.
Et la stratégie la plus poussée, c'est leur façon de recadrer la souffrance physique et l'humiliation. Ils ont emprunté le vocabulaire du sport, de l'arène, qui était très cher aux Grecs.
Ah oui, les sources citent le 4e livre des Maccabées, c'est ça ? Un texte qui raconte le martyr brutal d'une mère et de ses 7 fils sous un tyran grec. N'importe quel observateur extérieur y verrait la dégradation absolue, la destruction totale de l'honneur de cette famille.
Mais l'auteur retourne le paradigme complètement. Il décrit cette scène effroyable comme un noble concours, une compétition athlétique divine. Les martyrs torturés deviennent des athlètes d'élite de la foi.
Et le tyran ?
Le tyran qui les mutile, ce n'est qu'un adversaire sur le terrain. Le cosmos tout entier sert de public, captivé, et c'est la vertu divine en personne qui remet la couronne de la victoire. La souffrance, qui était la preuve de la défaite sociale, est métamorphosée en preuve indéniable de victoire morale.
Ça fait penser, bon, dans une moindre mesure bien sûr, à la dynamique de certaines contre-cultures modernes, ou aux fans inconditionnels de certains groupes très de niche.
Ah oui, comment ça ?
Ces communautés peuvent être la cible de moqueries constantes de la part du grand public. Mais la critique glisse sur eux sans aucun effet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé que l'opinion du grand public était ignorante. La seule validation sociale qui compte à leurs yeux provient de leur propre cercle d'initiés.
C'est une super comparaison. Dans l'Antiquité, le piratage était le même. Sauf que l'initié suprême dont on recherchait l'approbation, c'était le créateur de l'univers.
Et cette redéfinition permanente, elle était indispensable à la survie. Parce que dans ce monde, l'honneur n'était pas un concept théorique. C'était un jeu tactique permanent, et surtout, un jeu à somme nulle.
Exactement. La société percevait l'honneur comme un bien limité. La quantité de prestige disponible dans un village ou une ville n'était pas infinie. Par conséquent, pour qu'une personne élève son statut social, il fallait inévitablement qu'elle arrache cet honneur à quelqu'un d'autre.
Ce qui transforme chaque interaction publique en un champ de mine sociale. Et c'est là que l'analyse du docteur De Silva sur un texte de l'évangile de Luc au chapitre 13 prend tout son sens. C'est l'art de la riposte décortiquée. Le texte raconte que Jésus guérit une femme, courbée depuis 18 ans, et il le fait en plein jour du sabbat, devant la foule.
Et guérir publiquement, c'est pas seulement un acte médical ou compatissant, c'est une immense revendication d'autorité spirituelle et donc une captation massive d'honneur.
Et immédiatement, l'ordre établi réagit, car l'honneur est en train de basculer. Le chef de la synagogue lance un défi. Mais il ne s'adresse pas directement à Jésus, ce qui montre bien la prudence stratégique de ses joutes.
Ouais, il s'adresse à la foule en disant « Il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ces jours-là, mais pas le sabbat ». C'est une tentative de dégrader publiquement le statut de Jésus en le présentant comme un infracteur de la loi divine.
Et voici la riposte. Les anthropologues utilisent vraiment ce terme d'escrime pour décrire l'échange. C'est génial. Jésus part l'attaque et contre-attaque vigoureusement. Il qualifie ses opposants d'hypocrites et met en évidence leur propre logique.
Il leur dit en substance « Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le mener boire ?» Et cette femme, liée par Satan depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?
L'argumentation est imparable.
Mais l'aspect crucial de cette dynamique, l'élément que notre regard moderne occulte souvent, c'est le rôle du public. Dans ce jeu à somme nulle, ni le chef de la synagogue, ni Jésus ne peuvent décréter leur propre victoire. Le verdict appartient exclusivement à la foule présente.
Le jury social, quoi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? En relisant ce passage avec cette lentille culturelle, l'interaction ressemble moins à un débat théologique paisible qu'une rap battle très agressive.
Une rap battle, j'adore l'image.
Mais c'est ça, un duel verbal public où l'un des deux adversaires va repartir socialement dévasté. Et le texte de Luc est explicite sur le résultat. Il note que tous les adversaires de Jésus furent couverts de honte, tandis que la foule tout entière se réjouissait. Le transfert de capital social est achevé.
La foule a tranché, mais l'honneur a changé de camp. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, on réalise à quel point il est vital de comprendre les règles du jeu. Lire ces affrontements, ou même les épîtres de Paul, sans saisir cette quête impitoyable pour l'honneur, c'est comme regarder un sport collectif de très grande intensité sans en connaître les règles.
On voit les gens courir, on perçoit la tension, mais on pige rien à la stratégie.
C'est exactement ça.
Comprendre cette matrice du monde méditerranéen du 1er siècle, c'est vraiment s'équiper d'un bouclier indispensable. C'est ce qui empêche de forcer les textes anciens à répondre à nos préoccupations modernes, sur les droits de l'homme ou l'accomplissement personnel, des concepts qui auraient semblé complètement absurdes à l'époque.
Et c'est une formidable leçon d'humilité analytique. Notre système culturel, basé sur l'individualisme, n'est qu'une des nombreuses façons dont l'humanité a structuré la réalité. C'est pas la norme historique par défaut.
Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu vertigineuse, sur laquelle j'aimerais qu'on conclue. On vient de voir que notre individualisme forcené, notre quête d'indépendance financière, tout ça aurait semblé monstrueux et sans honte pour un citoyen de l'Antiquité. La logique est inversée.
Totalement inversée.
Alors, posons-nous la question pour l'avenir. Parmi toutes les valeurs fondamentales de notre époque, celles que l'on considère aujourd'hui comme les plus morales, nobles et intouchables, lesquelles sembleront complètement folles, barbares ou honteuses aux historiens qui tenteront de décrypter notre psychologie sociale dans 2000 ans.
C'est une excellente question à laisser infuser.
Sur ce point d'interrogation historique, cette plongée s'arrête ici. Merci à tous ceux qui nous écoutent et à la prochaine pour une nouvelle exploration.